cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 novembre 93 à Saint-Jeudard.
Comme la tête est encore debout, on aurait pu y passer, hein, ça c'est sûr. Parce que le coup était dur. On peut faire de la métaphysique. La métaphysique est au-dessus des accidents. Puisqu'elle regarde la substance. C'est à ces moments-là qu'on comprend ce que c'est que l'être, vous savez. Parce que n'est touché par l'accident que l'accidentel. Mais comme l'accidentel fait partie des dispositions, avancez. Oh, oui, parce que c'est comme ça. Merci. C'est ça. Évidemment, ça vous met en dépendance de beaucoup de choses. Et des frères. Et comme tous les frères sont des infirmiers. Et des infirmiers bien aimés. Alors ça va très bien. On est bon. Et je le prends comme un moment de retraite. Mais en même temps, en indiquant les heures où les frères peuvent venir. Parce que hier, je suis resté encore dans le silence. Parce que le choc dure un certain temps. Je crois que maintenant, l'être est au-dessus des vagues et surnage. Bon, alors, il y a une question. Dès que j'atteins l'acte d'être dans ceci est, alors je dirais, voyez, est-ce qu'on atteint vraiment l'acte d'être ? Parce que l'acte d'être peut être pris d'une façon particulière. Donc dès qu'on atteint par, moi je mettrais comme ça, dès qu'on atteint par la détermination du ceci, une manière d'exister, par l'acte d'être, une manière d'exister, je peux dire aussi je suis une autre manière d'exister. C'est la manière d'exister qu'on atteint dans ceci, c'est pas l'acte d'être. L'acte d'être est présent dans cette manière d'exister, mais l'acte d'être n'est pas explicite dans l'acte d'être, dans ceci. L'acte d'être sera explicité quand je saisis le principe, l'être en acte. Et il y a deux moments différents, et ça c'est très important à bien saisir. Deux moments différents. En philosophie, puisque le jugement d'existence est toujours présent, il faut voir comment le jugement d'existence est présent, mais comment il est caché. Parce que Heidegger, à ce point de vue-là, s'exprime très bien. Il faut dévoiler à l'été. Il faut dévoiler. Et ce dévoilement, on disait en scolastique, l'implicite et l'explicite. Bon, il a mis un nouveau mot. Très bien, il suffit de savoir ce que ça veut dire. L'implicite et l'explicite. Le dévoilement, c'est que on dévoile quelque chose qui est présent et qui est voilé. Mais le quelque chose est présent. L'acte d'être est présent dans ceci. Mais il est voilé par le ceci. Alors, vous pourriez regarder tous les voilements de l'être, tous les voiles qui cachent l'être, tout ce qu'il faut dépasser pour qu'on découvre l'être. Et c'est à l'égard de la personne humaine que ces multiplicités d'habits de l'être, les voiles, ces derniers voiles est en soi, où il est très, 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 très subtil. Il y a des gros voilements. Alors, premier voilement du « je suis travaillant ». Alors, quand on travaille, on a des mains sales, on a des pieds sales, on a de gros vêtements, et on ne voit que ça. Donc, vous avez le voilement de l'être, premier, le travail. Le second voilement de l'être, l'amour d'amitié. C'est la garde-robe de l'être. Vous avez toute la garde-robe de l'être. L'amour d'amitié. Troisièmement, la coopération. Troisièmement. Quatrièmement, le devenir et la matière. Cinquièmement, l'opération vitale et la vie. La vie voit l'être. Enfin, ceci dans le jugement d'existence. Vous voyez, tous les voilements précédents ont perdu leur éclat pour devenir neutres. Ceci. Oui, là, c'est le dernier voile. Il est de soi. Pour être plus léger, il a perdu son éclat. Tandis que le travail. Il a un éclat étonnant. Quand on vous dit, qu'est-ce que vous faites ? Je travaille. Ça veut dire, laissez-moi la paix. Et au fond, le travail, quelquefois, dit à l'être, laissez-moi la paix. C'est vrai. Toute la philosophie pratique dit à la philosophie contemplative, laissez-moi la paix. Parce que c'est un habit éclatant. Qui, quelquefois, peut être plus éclatant que l'être. Ça arrive. Il y a des gens qui sont très laids et qui arrivent par des voiles successives à être magnifiques. Vous savez, prenez dans un vieux grenier une statue de la Vierge Marie pour Noël. Statue de Saint-Joseph. Vous les voilez artistiquement. On ne voit plus rien d'avant. On ne voit plus que le voile, qui est beaucoup plus beau que ce qui est derrière. Mais, alors pour l'être, ça n'existe pas, parce que là, t'es pas atteint. T'es pas touché. Mais on voit très bien comment le voilement de la praxis est puissant chez un marxiste. C'est la praxis qui a tout pris. Comment le voilement de l'amour d'amitié est puissant dans la méthode, dans la phénoménologie. C'est l'amour d'amitié qui domine. Comment, dans une philosophie politique, l'aspect de coopération, de solidarité prend tout. Dans une idéologie. Ça, les idéologies, c'est que dans les idéologies, on met l'habit avant la réalité qui supporte cet habit. L'être est complètement voilé, de façon massive. Oui. Alors, et tout l'art du philosophe, c'est de voir la garderie de l'être. Et alors, ça change, il y a des modes. Ça change. La garderie de l'être n'était pas tout à fait la même chez un théologien comme Thomas d'Aquin que chez Aristote ou chez nous. Alors, ce serait intéressant de voir quelles sont les couleurs dominantes qui restent et quelle est cette mode qui demeure. Vous voyez, je dis ça pour que vous compreniez mieux imaginativement. Parce que c'est ça, au fond, l'induction, c'est de passer de l'habit à la réalité cachée. De ce que vous voyez à la réalité cachée. Donc vous passez du voilement de l'être au principe, du voilement du principe, pourrait-on dire. Alors c'est intéressant de dévoiler présent dans le « je suis » que dans « ceci est ». Il colle mieux avec « je suis ». Il m'imite, comme dirait scolastique. Il est plus, le « je » est plus imprégné de l'exister que le « ceci ». Pourquoi ? Parce que dans le « ceci » est impliqué toute la diversité des déterminations. Donc je saisis mieux l'aspect relatif du « ceci » à l'égard de « est » que quand je prends « je suis » ou « je suis » complètement en admiration devant cette modalité tout à fait particulière de l'être dans le « je suis ». Et je risque à ce moment-là de dire « mais il n'y a qu'une seule chose importante, c'est le « je ». Et donc l'être devient relatif au « je ». Pour que l'être ne soit plus relatif au « je », il faut passer par le plus petit, ceci. Mais je pourrais très bien commencer ma métaphysique par « je suis ». Il n'y a pas d'inconvénient. Et alors on le considère comme un et ceci est. Le ceci est, on pourrait dire, voyez, parce que là, il y a l'analogie, mais dans le ceci est, on est en présence d'une des modalités les plus, entre parenthèses, génériques de l'être. Dans le je suis, je suis en présence d'une des modalités les plus individuelles de l'être. Toujours entre guillemets. Parce qu'en réalité, c'est ni générique ni individuel, c'est deux modalités de l'être. Mais dans l'expérience première, je peux dire que c'est comme générique. Or, je commence par l'aspect le plus générique, parce que c'est celui qui est le plus en connaturalité par rapport à moi. Mon intelligence aime le générique selon son conditionnement. Conditionnement de l'intelligence humaine fait qu'on aime l'aspect générique. Il ne faut jamais oublier ça. Et dès qu'on est un peu fatigué, on retombe dans le générique. Tout de suite. Et on a beaucoup de peine d'arriver à l'aspect qualitatif. Oui. La qualité est comme noyée dans le générique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'est la série. Ce n'est plus une œuvre, mais c'est la série. La série, c'est le on. C'est... On précise ce que représente un élément de la série. Mais c'est un élément de la série. Tandis que vous n'êtes pas un élément de la série quand vous dites « je suis ». Le « je suis » refuse d'être un élément de la série. Il est unique. Je ne me retrouve pas dans mon frère. Non, je suis toi, si tu peux dire je suis, alors on doit être identique. Puisque tous les deux ont dit je suis. Alors ce moment-là, mais pas du tout. Mon je suis n'est pas du tout ton je suis. Et ça, je crois que nous avons tous cette même réaction. Quand quelqu'un veut se coller à nous d'une façon telle, il dit, je trouve, vous voyez, l'ami dit, tu es un autre moi-même. L'ami dit, tu es un autre toi moi-même. Il dit ça à l'ami. Mais s'il ajoute, nous sommes identiques. Vous tuez l'amitié. Et comme c'est subtil, quand l'ami dit, tu es un autre moi-même, l'ami maintient la diversité entre l'ami et lui. Et surtout ne tombe pas dans l'identification. Alors, les psychologues disent ça sur leur langage, mais c'est beaucoup plus fort en philosophie. Parce qu'on voit tout de suite que le « je suis » ne peut pas se répéter dans un autre. Quand je dis « je suis » et que vous dites « je suis », nous disons la même chose. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça. C'est métaphysiquement réel. Votre « je suis » n'est pas le mien. Et votre « je suis » n'est pas celui d'à côté. Il est unique. Tandis que ceci est... Ah, quand tu me regardes, tu dis « ceci est », mais oui, très bien, tu regardes un autre aussi, « ceci est, ceci est ». C'est le genre, on est noyé dans l'aspect générique. Et cette noyade générique me permet plus facilement de montrer ce qu'est l'être. en dehors de mon exister. Il n'y a que mon exister qui est unique. Ça, c'est une purge. Parce qu'on se croit tout le temps, on ne sait pas où c'est que ça, devant ça. Je suis le premier peintre du monde, je suis le premier ami du monde, je suis le premier métaphysicien et philosophe du monde. Pas du tout. D'autres peuvent dire mieux que vous. Mais dans votre exister, si vous êtes un métaphysicien, là, je suis unique. C'est pour ça qu'on est toujours unique pour Dieu. Parce que Dieu me voit toujours à travers mon exister. Mon exister qui participe. Mais les autres ne me voient pas du tout à travers mon idée. Ils voient ma garde-robe. Le monde est très sensible à la garde-robe. C'est très vrai, on voit ça aujourd'hui. C'est pas seulement la garde-robe, aujourd'hui c'est les autos. Il faut tous les ans changer d'auto. Ça fait partie de mon style. Mais on identifie. Non, je suis avec l'auto.
Générique n'est jamais dépassé.
Même chez Hegel, qu'il a gardé comme poil. Et ce serait peut-être, voyez, l'aspect de Heidegger par rapport à Hegel, de dire, vous n'avez pas saisi l'être. Parce que pour Heidegger, c'est net, Hegel n'a pas saisi l'être. Et c'est vrai, il est resté dans un aspect générique. Alors, c'est là, il faut se poser la question, est que toute dialecte, toute philosophie de la participation, toute dialecte, de le lire en critique. moi donner, je dépasse ça. Alors, vous voyez, alors pourquoi ce dépassement? Pourquoi ce besoin de dépasser toutes ces expériences? Quand Aristote dit que le point de départ de la métaphysique, c'est l'expérience, oui, il faut bien le comprendre. C'est l'expérience. Or, je n'ai pas l'expérience de l'être. Explicitement. Donc, au-delà de l'expérience, il y a ce choix d'existence. Pourquoi je pose ça? C'est parce que mon intelligence ne peut jamais rester dans la diversité. Mon intelligence, quand elle est en face de la diversité, cherche toujours l'au-delà de la diversité. Quel est l'au-delà du travail? Quel est l'au-delà de mon amitié? Quel est l'au-delà de la solidarité? Quel est l'au-delà du devenir? Quel est l'au-delà de la vie? Il y a quelque chose qui unit tout ça, qui unit toute cette diversité, et qui fait que cette diversité a quelque chose de commun. Elle existe. Et puis, comme cette diversité a quelque chose de commun, qu'elle existe, qu'est-ce que c'est que l'exister? Vous voyez? C'est la diversité de mes expériences qui me conduit au jugement d'existence. Si je veux aller jusqu'au bout de mon expérience philosophique, j'aboutis au jugement d'existence. C'est la différence entre le jugement d'existence, entre l'expérience philosophique et l'expérimentation scientifique. L'expérimentation scientifique ne conduit pas au jugement d'existence. Pourquoi? Parce que l'expérimentation scientifique, c'est, étant donné telle hypothèse, je vois si cette hypothèse est exacte. Je reste au niveau de l'hypothèse. Or, l'hypothèse est au niveau de l'intuition et de la forme. Donc, je ne dépasse pas le côté formel de mon jugement. Et je ne dépasse pas cette détermination de l'être. Je suis dépassé par le point de vue de ces diverses déterminations, des étangs. Toutes les sciences restent au niveau des étangs. Alors je dis dans un langage réaliste, toutes les expériences me font découvrir la garde-robe de l'être. Mais ne me fait pas toucher l'être. Alors, mon intelligence ne peut pas s'arrêter à cette diversité. Elle veut aller plus loin. Pourquoi? Parce que je cherche à connaître ce que c'est que l'homme. Et non seulement la diversité entre les hommes, mais qu'est-ce que c'est que l'homme dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire l'être à l'homme. L'être à l'homme, c'est regarder l'être avant l'homme. Puisque l'être n'est pas lié à l'homme, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Donc si je veux connaître l'homme parfaitement, je dois avoir un regard métaphysique. pas l'expérience. Donc je resterai dans l'hypothèse. Existe-t-il un être au-delà de cette diversité? Je ne peux pas le poser, j'en ai aucune expérience. Cet être serait Dieu, serait le Créateur. Mais je n'en ai pas l'expérience, donc je ne peux pas le poser. Alors, je peux peut-être le poser en passant par ce qu'il y a de commun, d'une façon immanente, à l'intérieur de toute cette diversité. Mais on est coincé. On est obligé de poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Ça aussi, c'est très très important à saisir pour bien comprendre que la métaphysique n'est pas du luxe. Mais la métaphysique est nécessaire que pour que mon intelligence se libère de toutes les déterminations accidentelles. Pour que mon intelligence creuse le plus loin possible dans la réalité et dans l'homme. Pour que mon intelligence comprenne ce qu'est la garderie de l'être, tout ce qui est impliqué dedans. Toutes ces déterminations secondaires et qu'elles découvrent ce qu'il y a de premier, d'une façon immanente, pas d'une façon extérieure, puisque je n'avais pas l'expérience. Si j'avais l'expérience de Dieu, ce serait très simple. Je ne serais pas obligé de passer par la métaphysique. Mais ça, c'est la grande tentation des ontologistes. Malbranche. C'est la métaphysique d'un curé. Pas de campagne, de ville. Et d'un curé très très intelligent. Malbranche dit, quand je vois le chat, je vois l'idée de Dieu du chat. Vous voyez, on voit des cartes. C'est la différence. Il y a un Descartes curé, il y a un Descartes qui n'est pas curé. Un Descartes pas curé dit oui, ça doit exister en Dieu nécessairement. On est comme une... Tandis que l'autre, il dit non. Je ne peux connaître vraiment le chat qu'en Dieu. Je ne peux connaître vraiment l'homme qu'en Dieu. Et alors, vous voyez, c'est à partir de là que vous voyez la grande réaction de Feuerbach. Il ne faut pas l'oublier. L'ontologisme de Malbranche d'un curé, c'est impardonnable, parce qu'un curé n'a pas le droit de mentir. Un prêtre n'a pas le droit de mentir. Or, en disant que je vois l'homme en Dieu, parce que je vois Dieu avant l'homme, il ment. C'est pas vrai. C'est vrai au plan de la foi, mais c'est pas vrai au point de vue de l'intelligence. Vous voyez cette confusion? Ah, ce serait intéressant de voir la différence entre Malbranche et Heidegger, à ce point-là. La différence entre la position ontologique, la position de l'ontologiste de Malbranche et l'ontologie de Hegel. Pour Malbranche, on voit tout dans la vision de Dieu. Tout voir dans la vision de Dieu, c'est magnifique, hein, c'est étonnant. Mais en faisant ça, la réaction d'un Feuerbach, en faisant ça, vous aliénez l'homme à Dieu. Puisque vous ne reconnaissez pas qu'il y a dans l'homme une intelligence parfaite, donc une autonomie possible. Vous muselez l'homme, muselière divine qui est Dieu. Vous muselez l'homme. Vous le considérez comme incapable de déterminer l'intelligence d'un autre. Mais c'est très important de voir comment l'ontologisme fait le lit des idéologies athées. De Malbranche à Feuerbach. Ça, c'est une position très très importante à bien voir. Parce que c'est toutes les idéologies athées modernes, c'est Feuerbach. On voit la nécessité de poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» On voit ensuite comment cette question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» qui est la grande interrogation de l'intelligence, que cette grande interrogation de l'intelligence peut me permettre de découvrir pas c'est Aristote qui dit ça. Ou, dans un style moderne, on pourrait dire une intuition. Il faut une admiration de voir que dans le chemin d'existence, ceci est. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce que je mets en cause, l'être, ce qu'il y a de plus évident dans toutes mes démarches intellectuelles, ce qui est le fondement de toute l'intelligibilité, de toutes les réalités. Et je mets en cause. C'est d'avance qu'on ne peut pas l'atteindre. Alors c'est le soupçon. Tandis que quand on sait qu'on peut l'atteindre, alors c'est l'admiration. Et là aussi, il y a quelque chose de très important à bien saisir. C'est ce passage de l'expérience à l'interrogation. Où je fixe tout mon regard. Saisir. connaît rien du tout, n'interroge pas. Quand on commence à interroger, ça prouve qu'il y a déjà un problème, qu'on connaît quelque chose en référence de quoi on pose la question. Et on va aller plus loin. Donc tout le statut de l'interrogation est à reprendre aujourd'hui. Et il est très important de bien comprendre que l'interrogation est à la vie intellectuelle ce qu'est le désir. Affectivement, on désire. C'est même ce qu'il y a de plus grand, au dire de certains mystiques. Ce qu'il y a de plus grand sur la terre, c'est de désirer. Et il faut comprendre ce que c'est que ce désir dans la vie appétitive, dans la vie affective, et transposer dans la vie intellectuelle cette soif. L'arc est tendu, comme on dit au Moyen-Âge. L'interrogation, c'est l'intelligence qui se tend comme un arc pour que la flèche puisse être bien dirigée et avoir une vigueur suffisante. Et la flèche et sa vigueur, c'est l'induction. Donc il y a ce passage de l'expérience à l'induction grâce à l'interrogation. Et si vous ne voyez pas le statut d'interrogation, vous ne comprendrez jamais ce que c'est que l'induction. Donc on se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Le ti esti de l'être. Or, le ti esti est double. Ou même plus que double. Il y a quatre ti esti. Aristote en a fait l'inventaire. Utiliser cet inventaire d'Aristote, mais nous devons le recommencer. Vous devez avoir l'évidence critique, qu'il ne peut y avoir que 4 ou 5 interrogations du Tiesti. Je vous les nomme, vous les savez, le Tiesti qui fait découvrir la cause formelle. Qu'est-ce que c'est ? Le Tiesti qui fait découvrir la matière, en quoi ? Le Tiesti qui fait découvrir l'origine, d'où ça vient ? Le Tiesti qui fait découvrir la finalité, en vue de quoi ? Et le Tiesti qui fait découvrir la cause formelle, efficiente. C'est très important de comprendre bien cette première interrogation. Qu'est-ce l'être du côté de sa cause formelle ? Qu'est-ce que je cherche quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être selon sa cause formelle ? Je cherche quelle est la détermination première de l'être. Mais je reste dans l'ordre des déterminations. C'est l'heure. Là, on verra ça. Et d'autres fois, peut-être demain.